RMC Intégral Tour, Virginie Fulpin.
Il est 20h06, l'Intégral Tour c'est jusqu'à 21h. Dans un instant, on sera avec Luc Leblanc et Thierry Bourguignon et vous au 32-16 pour parler du Tour de France et notamment de la chute de Tony Martin, le maillot jaune. Nous, on va d'abord faire un détour par la Suisse, Lausanne exactement, avec le meeting d'athlétisme de Lausanne. François-Xavier Tchatofort est notre envoyé spécial sur place. Bonsoir, Félix.
Salut Virginie.
Et Maryse Evangépé est avec moi en studio. Salut Maryse.
Bonsoir.
Salut Maryse.
Celui qu'on attend avant tout, c'est Renaud Lavillenie pour une revanche.
Une revanche. En plus, ce sont les mêmes perchistes qui étaient samedi soir au Stade de France qui sont ce soir au Stade de la Pontaise à Lausanne. Renaud Lavillenie qui avait terminé seulement 5e à Paris samedi dernier avec 5m71. Indigne de son rang, une vraie déception pour Renaud Lavillenie qui a promis de frapper un grand coup ce soir. On y croit. Souhaitons qu'il ait surtout retrouvé sa forme parce qu'on l'avait trouvé très émoussé, Maryse, samedi au Stade de France.
Oui, il n'était pas dans ses marques. Je ne sais pas ce qu'il a donné comme explication, mais effectivement il avait l'air un petit peu fatigué. C'est vrai que c'était en pleine canicule et qu'il avait pas mal concouru, mais ça a dû piquer pour ce soir. Et puis c'est vrai qu'il n'a jamais sauté plus haut que 5m87 à Lausanne, même si ça me fait toujours drôle de dire ça parce que c'est quand même sacrément haut.
Que 5m87,
ah, franchement il pourrait un petit peu se bouger, et je pense qu'il va se bouger ce soir.
Voilà. Il va commencer à 5m76, de l'échauffement c'est bien passé,
qui montre ses intentions.
Voilà. On va suivre évidemment le concours de Renaud Lavillenie avec vous deux. On va d'abord repartir sur le Tour de France avec Luc Leblanc et avec Thierry Bourguignon. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir Virginie.
Rebonsoir. Oui, alors c'est
bien, t'as dit Luc Leblanc, pas le banc.
Ah, parce que j'ai dit ça d'habitude, non?
T'as dit le banc tout à l'heure.
D'accord. Désolé. En revanche, je dis bien Tony Martin.
C'est bien parce que c'est toi, je reste.
Et attention au banc des remplaçants aussi. Hein.
Cette image de Tony Martin qui passe l'arrivée au Havre avec plusieurs minutes de retard et puis le bras en écharpe sans pouvoir toucher le guidon, c'est impressionnant quand même. Hein.
Ouais, ça fait surtout mal. Mal pour lui parce que, bon, bah, ça arrive, hein, ça fait partie du métier malheureusement, on l'a vu, hein, depuis le début du tour, c'est nerveux, ça tombe, il y a du vent, il y a mauvais temps, et puis là, même pas un kilomètre de l'arrivée, il touche une roue et plaf, ça s'arrête là.
Mais
c'est le problème du tour, hein.
Ouais.
On nous dit clavicule cassée et il a attendu un bon moment avant de prendre sa décision. Là, a priori, il abandonne. Hein, on n'a pas encore de confirmation officielle, mais a priori, il va abandonner. Moi, ce qui m'étonne surtout, c'est qu'il ait pu se dire à un moment qu'il allait continuer.
Ah, on peut toujours non, mais on a une douleur et on se dit bon, ben c'est peut-être juste froissé, quelque chose comme ça. Il a peut-être pas ressenti la fracture complète. Hein. S'il y a pas de déplacement, tu te dis une petite douleur et puis tu espères. C'est surtout l'espoir qui l'a fait parler comme ça, qui est même. En allant passer les radios, eh bien, il disait j'espère repartir demain. Voilà, c'est tout. Mais il espérait. Malheureusement, le verdict de la radio a été autre.
Alors, on a Daniel qui nous appelle au 32-16 pour nous parler de Tony Martin. Bonsoir, Daniel.
Bonsoir, Virginie. Bonsoir, Luc, et bonsoir, Thierry.
Bonsoir. Bonsoir.
Vous étiez étonné, Daniel, par l'attitude de Tony Martin.
Ben, étonné, oui. Je voudrais demander à Luc et à Thierry, ce qui nous fait bizarre, c'est de voir le maillot jaune comme ça au kilomètre. Déjà qu'il nous a dit qu'il voulait garder le maillot jaune le plus longtemps possible. Alors je vais poser la question, qu'est-ce qu'il faisait devant?
Ben, c'est pas un sprint massif, un sprint sur du plat.
Il était
devant, il a suivi les meilleurs. C'est la meilleure façon de ne pas tomber. Malheureusement, c'est lui qui touche une roue et qui est déconcentré peut-être à un moment donné. Et il touche la roue et il tombe. Mal tombé sur la
clavicule. Non, mais en plus, il était bien placé.
Oui.
C'est vrai qu'il était bien placé, mais bon, ce qui fait drôle, c'est... Bon, vous avez quand même connu ça. Le maillot jaune, pourquoi le voir devant comme ça? Des fois, on se cache un petit peu pour le...
Ben, il voulait le garder. Et attention, les cassures. Dans une bosse comme ça va très vite. Suffit que vous soyez au milieu de peloton, et ben de suite vous prenez une cassure et des fois vous perdez le maillot pour ça.
Ouais, c'est vrai que Froome
était
aussi
à côté, Nibali était à côté, Quintana était à côté puisqu'ils sont presque tous tombés puisque
c'est vrai qu'ils étaient tous là, oui, c'est vrai.
Oui, donc on peut pas lui en vouloir. Moi je comprends pas, j'ai entendu quelques personnes s'offusquer en se disant qu'est-ce qu'il est allé faire le sprint, ça aurait été, et même dans un sprint massif, ben, il n'était pas dans les 5 premiers. Hein. Il était dans les 20e, 30e.
Oui, puis ça montre un petit peu de panache aussi de sa part.
Oui, et puis il aidait son sprinteur aussi.
Ben oui. Aussi.
Merci beaucoup, Daniel, d'avoir appelé le 3216.
Je vous remercie beaucoup et continuez votre émission. Et puis, Luc et Thierry, arrêtez d'agacer Cyril, vous allez le rendre furieux. Hein.
Mais non.
Vous lui faites des misères.
Hein. Oh, ouais,
c'est lui qui nous fait les
misères. Il nous a tellement embêtés pendant des années.
Non, mais il faudrait le débrancher de temps en temps.
Ah oui, c'est vrai, oui.
Ah, voilà.
C'est vrai qu'il y a des fois.
Il faudrait lui enlever la prise.
C'est vrai que vous êtes pas triste, des fois.
Non, on s'amuse.
On en parlera quand il sera là. Hein, parce que là,
par rapport aux vieux comme Cyril, avec Thierry, on le laisse faire. C'est normal. On a de la compassion pour Cyril.
On est tous vieux.
Messieurs, qui aura le maillot jaune demain, Froome ou personne?
Ben ça, c'est au bon vouloir de Froome.
Bah si, c'est Froome.
Non, mais c'est au bon vouloir de Froome.
À mon avis, il le prendra pas. Il le portera pas.
Ah, c'est-à-dire qu'il peut par respect dire non, je le porte pas aujourd'hui, je le prendrai demain.
Je pense que Thierry, tout comme moi, on serait à la place de Froome, on le porterait pas.
Ah bah que dalle, j'ai jamais porté le maillot jaune, tu crois que si on me le donne, j'ai l'occasion de le porter, imagine. Bon, là c'est pas, ouais, c'est pas le cas sur Froome, Froome il a déjà eu, mais par exemple, un coureur n'a qu'une possibilité de le prendre aujourd'hui. Et il le prend pas, et malheureusement, le soir, eh ben, on lui dit, ben non, t'as pris une cassure, et paf, c'est plus toi.
Oui.
Ah, c'est...
Bon, c'est vrai que là, il pourrait y avoir débat. Là, en l'occurrence, pour Chris Froome, il a déjà gagné le Tour de France, donc la question ne se pose pas. Là, par respect, il ne va pas le prendre.
Pour moi, il va pas le porter. Il va le prendre, mais il va pas le porter.
Il le portera demain si
Tony Martin n'est plus là au départ. Il va prendre le maillot jaune, ça c'est évident, mais il ne le portera pas pour moi.
Et puis, il y a aussi.
Je pense qu'il va faire pareil. Hein. Qu'il va faire ça, oui, c'est vrai.
Il va faire ça, d'accord.
Donc, c'est un gentleman.
Oui.
Ben, il est anglais, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Oh, ton spiff.
Voilà, c'est ça. Et en revanche, Nibali et Quintana, eux, sont tombés aussi dans cette même chute. Bon, alors c'est beaucoup moins grave que pour Tony Martin, bien sûr, mais ça peut pas les affecter un peu là avant l'étape de demain.
Bon, a priori, il n'y a pas de bobo, il est juste.
Il a cogné un petit peu le genou.
Oui, le genou un peu. De toute façon, il n'y a pas une chute qui est bénigne. Hein. Parce que des fois, on tombe gentiment, doucement, on pense qu'il n'y a rien, et puis derrière, ben, quelques jours après, une douleur apparaît avec l'effort d'une étape ou deux, et puis ça peut toujours engendrer. Mais bon, là, l'encadrement. Ils ont dû tout faire, passer dans les mains des ostéos, parce que chaque fois qu'on tombe, il y a les ostéos, il y a les toubis qui regardent et qui vont tout remettre ça sur pied.
Alors messieurs, il y a Christophe qui nous appelle au 32-16, qui voudrait lui parler des équipes françaises. Bonsoir Christophe.
Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, je suis super content de vous avoir.
Eh ben nous aussi, on est ravis.
Nous aussi.
C'est-à-dire que je vous ai appelé hier et puis je suis pas arrivé. Mais ouais, je voulais parler des Français un petit peu pour... remonter le moral, puis voilà, je suis pas d'accord des fois quand on dit que les équipes françaises et tout voilà, sont derrière ou que Thibaut il arrive pas à... Voilà, Thibaut, le souci qu'on a, c'est qu'il a pas de chance cette année comparé à l'année dernière, et ça je trouve qu'on oublie de dire. L'année dernière, il a eu énormément de chance aussi pour être sur le podium, parce que s'il y avait eu tout le monde, il aurait pas pu y aller. Faut rester lucide. Donc voilà, mais cette année, il a pas de chance, donc c'est comme ça, il faut qu'on fasse avec. Et lui, il en est conscient. Il va se relancer sur des étapes, pour gagner des étapes et tout ça. Et il a bien raison d'ailleurs, parce que faut que c'est quand même beaucoup les médias aussi qu'on dit, Thibaut peut-il gagner le tour, etc. Il va gagner le tour et tout. Non, mais à un moment donné, faut quand même rester lucide avec les gars qu'il a en face et tout. Si un jour il doit le gagner, pour moi, c'est trop tôt. Il faut qu'il arrive encore à maturité. Il a encore de l'expérience à engendrer, notamment s'il est en train de lui arriver et tout ça, on le voit bien. Donc voilà, moi, je tiens à les féliciter tous. Tous les Français, toutes les équipes françaises et tout, c'est déjà ce qu'ils font, déjà c'est énorme. Moi j'ai un pote dans le peloton du Tour de France et je peux vous garantir que je le vois tous les jours, je sais ce qu'il fait, je connais sa vie, mais ce qu'ils font ces gars-là, mais du premier au dernier, c'est énorme. Et ils peuvent pas lutter. Pour moi, c'est. je leur souhaite de gagner un jour. Je souhaite à un Français de gagner le Tour, mais pour moi, c'est de l'utopie. Pour moi, c'est impossible. Ils font le même métier, mais...
Et pourquoi pour moi, c'est impossible?
Parce que c'est... On peut pas se mesurer aux équipes étrangères. Ça, vous vous rendez compte? C'est... Je sais plus ce qu'il... Je l'ai lu dans la presse l'autre jour, mais je sais plus qui c'est qui le disait, mais il avait raison. Il a raison, évidemment. Les équipiers, ils sont presque aussi forts que les leaders. Mais c'est... Vous vous rendez compte? C'est colossal. C'est-à-dire des équipes... de Contador et tout ça. J'étais sur le Giro, j'étais au Giro. Mais pareil, quoi. Je veux dire, quand on voit les gars et tout, leurs équipiers, jusqu'où ils les amènent et tout, c'est énorme. Et sur un tour de 3 semaines, c'est colossal.
Est-ce que vous êtes d'accord, Lucio Iborghi, sur cette différence trop importante entre les équipes étrangères et les équipes françaises pour espérer quoi que ce soit pour l'instant?
Non, mais on le disait par début de semaine, on disait que c'était difficile de comparer une équipe française à une équipe étrangère de renom, les équipes qui veulent gagner le Tour, puisque on l'a comparé à Paris Saint-Germain et puis la dernière équipe de championnat, je sais pas, Evian par exemple. Péjoratif ce que je dis, mais il y a un niveau qui est pas le même, puisque il y a un niveau financier qui est complètement démesuré par rapport aux équipes françaises, et puis après il y a les recrues qui vont avec, parce que on a beau dire ça se construit avec de l'argent, une équipe cycliste. Je suis un peu d'accord, mais un Français peut gagner, puisque par le passé il y a des Français qui ont gagné.
Mais est-ce que l'économie n'a pas changé?
Plein de choses ont changé, on peut pas comparer. Avant, c'était avant. Et maintenant, pour moi, il y a un fossé qui s'est fait.
Mais non, tu verras.
Le fossé n'est pas justement le fossé économique qui fait que avant, les équipes françaises étaient au même niveau économique, financier que les autres, et que là aujourd'hui, c'est plus compliqué de lutter contre les grosses cylindrées du Tour.
Il suffit de trouver un sponsor qui veut bien mettre le paquet pour gagner le Tour. Et c'est pas si simple que ça, puisque un des plus gros sponsors, c'était Cofidis. Et ben, regardez, ils ont investi sur un sprinter de renom avec Nasser. Et puis derrière, malheureusement, la malchance l'a fauché. Et puis voilà. Sur le Tour, ça fait partie du jeu, mais c'est pas si facile que ça, c'est clair. Il faut de l'argent, il faut des moyens, mais moi je suis pas tout à fait d'accord de dire que le fossé s'est creusé entre les Français et les étrangers. On peut voir dans quelques années un Français aussi venir dans une équipe un étranger venir dans une équipe française et gagner le Tour.
Lucho, quelle est ton opinion là-dessus?
Lucho, il est parti?
Ah, il est parti, Lucho.
Le banc des remplaçants.
Il est parti sans faire de bruit.
Oui.
Merci beaucoup, Christophe, d'avoir appelé le 32-16.
Tu me parlais, Virginie?
Ah, bah oui, Lucho. Ah, bah voilà. On t'avait perdu. Donc, oui. Est-ce que pour toi, la différence, notamment financière, entre les équipes étrangères et les équipes françaises, fait que là, dans les années qui viennent, on n'a aucune chance d'avoir un coureur français qui gagne le Tour?
C'est vrai que c'est pas facile, parce que déjà pour pouvoir gagner le Tour, il faut avoir déjà le coureur et les équipiers. Donc et pour avoir tous ces ingrédients là, il faut des finances automatiquement. Et c'est vrai que c'est pas avec 10 millions ou 11 millions d'euros par an que l'on peut avoir vraiment un gros leader et des très très bons équipiers qui peuvent gagner le Tour. Alors quand on regarde les budgets un petit peu de la Sky, c'est aux alentours de 18-20 millions voire plus. On demande pas autant du côté français. Mais quand on regarde les partenaires, par exemple, je te donne un exemple, la FDJ. La FDJ a les moyens aujourd'hui de pouvoir mettre un peu plus. Ça fait quand même plus de 15 ans, je crois, que la FDJ est dans le cyclisme. Et aujourd'hui, la FDJ, c'est bien peut-être la seule équipe et le seul partenaire peut-être aujourd'hui qui peut mettre un peu plus d'argent et consolider l'équipe de Marc Madiot pour pouvoir avoir comme objectif de pouvoir gagner le Tour dans les 2-3 ans. Ils en sont capables. Il faut savoir une chose aussi, Virginie, c'est que le cyclisme, c'est quand même le premier sport au monde à avoir le plus de retours sur les finances, hein, sur les partenariats, que ce soit au niveau de la communication, de la notoriété et le retour sur investissement. C'est le premier sport au monde. Pourquoi? Mais parce qu'une équipe cycliste, on l'appelle la FDJ, on l'appelle la G2R, la mondiale, on l'appelle Cofidis. Tandis que quand vous allez voir un match de foot et qu'il est retransmis à la télévision, on parle du PSG, on parle de l'Olympique de Marseille.
Je me permets de te couper 2 secondes parce que Pierre Ecten nous appelle pour l'information qui est désormais officielle pour Tony Martin.
Oui, absolument. Bonjour Virginie, bonjour à tous. On est ici à Pont-l'Évêque où réside l'équipe Quick-Step Ethics. Et donc la nouvelle est tombée, hein, Patrick Lefebvre l'a confirmé. Abandon pour Martine, fracture ouverte de la clavicule. Là, on est dans une petite cour de l'hôtel et c'est vrai que c'est un sentiment assez contrasté, hein, puisque d'un côté, il y a la victoire d'étape. Donc du côté du staff, on boit une petite coupe de champagne quand même, mais dans une chambre actuellement, il y a toujours Martine qui se fait soigner. Donc je répète pour cette nouvelle, la confirmation et l'abandon du maillot jaune du Tour de France actuellement, l'Allemand Martin, qui ne partira pas demain.
Merci beaucoup Pierrick Ten pour cette information. Donc Tony Martin abandonne. On va pas dire que c'est une grosse surprise.
Non. De toute façon,
plus, fracture ouverte, il devait le voir. Il devait le savoir.
Ouais.
Même avant, pas besoin de radio, là.
Donc voilà. Et alors, simplement pour en terminer, voilà. Si tu veux, quand on fait la comparaison avec le foot ou avec d'autres sports, c'est le seul sport au monde où on cite le partenaire. Ce soit sur les journaux, que ce soit à la radio, que ce soit à la télévision. Donc, c'est vachement important. Et la FDJ, avec tout l'argent qu'ils ont mis dans le vélo depuis le début, depuis toujours, ils augmentent le budget de 1,5, hein, ils font une super équipe et ils seront capables de gagner le tour. Voilà. Donc, si le président de la FDJ m'entend, ou son second, ou le numéro 3 de la FDJ, réfléchissez bien à votre investissement. Vous avez des retours formidables et vous touchez toute la population. C'est tout le monde qui va acheter un billet de loto. Moi aussi, j'y vais.
Je dépense de l'argent et je vous donne de l'argent. On en est tous là. On va parler également d'un coureur qui nous a étonné aujourd'hui et qui portera le maillot à pois, je crois, demain. C'est Henri Pierre qui veut nous en parler au 32-16. Bonsoir Henri Pierre.
Oui, bonsoir Virginie, bonsoir Luc.
Bonsoir.
Pour Guy. Oui, c'était pour vous dire que là on discute sur les équipes françaises s'ils peuvent gagner ou pas. Alors déjà c'est bien de penser qu'ils peuvent gagner, mais avant de gagner, je pense qu'ils devraient un peu plus réfléchir, les directeurs sportifs des équipes françaises. Parce que là on a une équipe, c'est MTN Koubeka, ils ont senti qu'il y avait un coup à faire là pour aller chercher le maillot à pois. Il y avait 3 points à faire, il y avait 3 sprints à faire, et prendre le maillot à pois et pour voir éventuellement le garder encore 1 ou 2 jours, en sachant que plus tard, on peut penser légitimement que cette année, le maillot, il risque de revenir un grand du tour, parce que les étapes arrivées en montagne, les points vont être doublés, et on peut penser que ce soit un Froome ou un Quintana, peut-être le vainqueur du Tour de France, soit aussi le porteur du maillot à pois. Et là, bizarrement, moi je me dis, si j'avais été un directeur d'équipe, et je pense que légitimement c'est ce qu'on pensait, en disant, si aujourd'hui on veut faire un peu une distinction d'un coureur, c'était le moment de sortir. Alors lui, il est super légitime parce qu'il sort, il a déjà fait ça dans le critérium, il sort, il s'est fait ses 3 sprints, il a gagné son maillot à pois, et finalement il a fait parler de son équipe, et on sent une certaine détermination. J'ai l'impression qu'on ne sent pas la même détermination dans d'autres
jeunes. Donc on parle de l'Érythréen Tekle Menot.
On lui a dit, voilà un objectif, c'était un objectif clair, simple, pas trop difficile, on va dire. Je m'étonne moi de ne pas avoir vu des Français. J'ai entendu tout à l'heure Christophe là, qui nous expliquait qu'on ne pouvait pas. Ils sont où là les petits jeunes qui ont fait et qui auraient pu se dire, ok, ce soir je vais montrer le maillot à pois et je vais me faire un podium sur le Tour de France. À l'époque, on avait Richard Viran qui le faisait.
Il y avait un Français devant, il y avait un Français avec lui, Kemener.
Il y a un Français qui a envie d'aller faire un...
Mais non, mais dans une échappée,
c'est déjà pas mal.
Et il a été plus rapide que tous les autres. Et en plus, il va très vite. Il fait des beaux sprints. Et je peux vous dire qu'il les mettait bien loin, vous avez bien vu. Donc c'est vrai qu'il y a, mais chaque année les premiers points des grimpeurs, il y a des gars qui essaient de se faufiler dans l'échappée du matin pour essayer d'aller grappiller et porter le maillot une journée ou deux, parce que après vous l'avez dit les grands vont se mettre en route et puis les points sont doublés aux arrivées, donc c'est vite parti le maillot. Mais faut pas dire que les Français n'espèrent pas se mettre sur le podium. Je peux vous dire que le départ tous les matins, le briefing, il y a ce type de briefing. C'est-à-dire qu'il y a des points à prendre, essayer de prendre la première échappée et faites en sorte de marquer le plus de points. Malheureusement, c'était lui le plus fort. Puis voilà.
Merci beaucoup Henri-Pierre d'avoir composé le 32-16. À très bientôt sur l'antenne d'RMC. Ben, c'est l'heure pour nous aussi. Hein, Luc Leblanc. Luc Leblanc, non
oui,
comme ça,
ouais.
C'est ça.
Le banc.
Je vous dis à demain, même heure, même endroit.
Fais de la pub pour moi, pour la Lucho Mobile, là, demain. Là.
Ben, c'est bon. Vrai, oui. Ben,
il a faim, il est crève de faim, là.
Secouez-vous
la
Lucho
Mobile,
là,
en plus, Livaro, c'est bien ça quand même.
Livaro,
non
là, dans les 25 derniers kilomètres, là, sur l'étape de Livaro, mettez des banderoles.
Ben oui,
donc,
voilà.
Qu'est-ce que tu fais?
Il faut normalement que Lucho remplisse sa Lucho mobile. Hein. Ça,
avec
c'est
le
important
nombre de glacières qu'il y a au bord de la route, t'arrives pas à trouver quelque chose.
Ouais, écoute, hein, c'est
bon,
pas,
allez, demain,
c'est
promis des victuailles, Merci beaucoup à tous les deux. Rendez-vous 15h.
Hein,
rendez-vous 15h pour l'intégrale tour. Et moi, je vous dis à demain 20h. Nous, on va aller faire un petit tour en Suisse hein, pour le meeting d'athlétisme de Lausanne. Et puis, on va aussi parler foot avec les petites fâcheries entre amis de Ligue 1 et de Ligue 2. Bernard Caillazo et Claude Michi sont nos invités. À tout de suite sur RMC.
RMC, Intégral Tour, Virginie Fulpin.
Il est 20h31, l'Intégral Tour, c'est jusqu'à 21h. Alors, on va parler de foot, bien sûr, comme toujours à cette heure-là. Mais d'abord, on va partir pour Lausanne. François-Xavier Châteaufort, le meeting d'athlétisme. Et ça y est, les qualifications de la perche ont commencé. Renaud Lavillenie a sauté?
Non, pas encore. La barre vient d'être placée à l'instant à 5m76. C'est la hauteur à laquelle Renaud Lavillenie va commencer son concours d'ici quelques bonnes minutes, une bonne dizaine de minutes, pas avant. Un point parce qu'il y avait deux autres Français dans ce concours. Il en reste plus qu'un sur les deux. C'est Kevin Menaldo qui s'en est bien sorti pour l'instant, qui a franchi 5,61 à son deuxième essai, donc qui tentera 5,76. Et en revanche, pour le frère de Renaud, Valentin Lavillenie, c'est terminé. Il a échoué par trois fois à 5,61 m.
Alors, Fix, on te retrouve bien sûr dès que Renaud Lavillenie est en place pour son premier essai. Pendant ce temps-là, rien ne va plus pour le football français. Non seulement la France tombe au 22e rang du classement FIFA, mais voilà qu'on déterre l'âge de guerre entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Voilà ce qui s'est passé ce matin, conseil d'administration de la Ligue. Dès la fin de la prochaine saison, deux clubs de Ligue 1 descendront en Ligue 2 seulement, donc seuls deux clubs de Ligue 2 monteront en Ligue 1, alors qu'ils seront trois à descendre en National. Bon, inutile de vous dire que ça fait un petit peu de bruit tout ça. Mohamed Bouafsi, tu étais à ce conseil d'administration, bonsoir.
Bonsoir Virginie.
T'as vu des clans se former en gros quoi.
Ouais, c'était une ambiance très tendue entre les présidents de Ligue 1, surtout entre les présidents de Ligue 1 et de Ligue 2. On a vu des visages fermés à la sortie de ce conseil d'administration, notamment le visage du président de la Fédération Française de Football, Noël Le Graët, ou encore ceux de Michel Sédoux, Bernard Caillazo, qu'on va retrouver dans quelques instants. Un chaos sans précédent, ce sont les mots d'un président de Ligue 1 qui résume la situation. Le football français n'a jamais été aussi proche d'une scission entre ces deux championnats majeurs. Les clubs de Ligue 1 demandent désormais une séparation entre eux et la Ligue 2. Objectif de cette séparation, retrouver une compétitivité face au championnat anglais ou espagnol. Une idée qui provoque la colère des présidents des petits clubs. Certains réfléchiraient même à révoquer le conseil d'administration de la Ligue de football professionnel pour bloquer la Ligue 1. D'autres évoquent un boycott de la reprise de la Ligue 2. Une ambiance tendue qui remonte jusqu'aux hautes sphères et qui inquiète le président de la Fédération Française de Football, Noël Le Graët. Les instances du football français traversent l'une des crises les plus graves de leur histoire.
Ça nous promet un été bien agité tout ça. Bon, bah, pas de jaloux sur RMC dans l'intégral tour. Un invité de chaque clan, on va dire. D'abord, Bernard Caillazo, coprésident de l'AS Saint-Etienne, qui est en ligne avec nous. Bonsoir Bernard Caillazo.
Bonsoir.
Alors, vous étiez, Bernard Caillazo, à ce conseil d'administration. Est-ce que vous pouvez nous raconter déjà comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a vraiment des clans qui se sont formés?
La Ligue 1 a toujours été solidaire de la Ligue 2. La preuve, c'est qu'on est les seuls en Europe à verser 80 millions d'euros à la Ligue 2 sans aucune contrepartie. C'est les droits télé de la Ligue 1 qui permettent de financer la Ligue 2. On veut bien financer, on veut bien écouter, mais on ne peut pas accepter d'être dirigé par la Ligue 2. Or, un certain nombre de décisions ont été prises. Et ces décisions, ben, depuis un mois, on se rend compte à travers l'Assemblée fédérale, à travers différents éléments, qu'il y a un combat d'arrière-garde qui est mené par des clubs de Ligue 2 pour faire en sorte que les décisions prises par les clubs de Ligue 1 ne soient pas avalisées. Le conseil de ce matin n'avait que pour but de valider une décision qui a déjà été prise en mai, qui est le système des montées et descentes par rapport à 2014-2015. À partir de là, bien évidemment, le grand débat de clubs comme Saint-Etienne, de clubs européens, de clubs comme Lyon, PSG, OM et autres, sont moins pas concernés par le maintien, moins que beaucoup d'autres clubs. Mais la réalité, par contre, ce qui nous concerne, c'est l'avenir de notre football. Et vous l'avez justement dit, 22e pays, nation européenne. Aujourd'hui, on voit partout ce qui se passe avec les Anglais. Les Anglais qui sont en train de nous faire une razzia et de devenir des monstres financiers. Et bien évidemment, notre football ne va pas bien parce qu'on a un certain nombre de carcans, on n'arrive pas à réformer, on n'arrive pas à avancer. Et en fait, aujourd'hui, c'est un peu un cri du cœur de la Ligue 1 de dire « Nous voulons aller vers des réformes, nous voulons faire avancer notre football, nous voulons changer les choses pour avoir une meilleure compétitivité européenne. » Parce que c'est là l'enjeu. L'enjeu, c'est l'enjeu de la compétitivité européenne.
Vous ne parlez pas le même langage entre Ligue 1 et Ligue 2 aujourd'hui. Les objectifs ne peuvent pas être les mêmes.
Mais bien sûr, on ne peut pas imaginer que, par exemple, Carrefour, Auchan, Système U, Leclerc, etc., parlent le même langage que celui qui a 2-3 épiceries, même en respectant tous ceux qui ont 2-3 épiceries. Nous respectons les clubs de Ligue 2, mais nous n'avons pas les mêmes enjeux. Où est la compétition européenne chez les clubs de Ligue 2? Nous ne sommes plus dans le même monde. Et la preuve, c'est que les Anglais, eux, ont séparé leur première et leur deuxième division. Les Italiens ont séparé leur première et leur deuxième division. Et ce que nous souhaitons arriver, ce sera un débat que nous souhaitons mener, c'est à séparer la Ligue 1 et la Ligue 2. Les sujets ne sont pas les mêmes.
Donc, Président, vous confirmez aujourd'hui que les clubs de Ligue 1, et notamment les gros clubs, PSG, OL, OM, Bordeaux ou encore Saint-Etienne, veulent le même modèle qu'en Angleterre ou en Italie, c'est-à-dire séparer deux entités.
C'est pas seulement les preuves, c'est la majorité de la Ligue 1 souhaite pouvoir avoir un modèle qui ressemble plus au modèle anglais ou au modèle italien. Mais si nous faisons rien, Mohamed, le grand problème que nous avons, quelles sont les réformes du football français depuis 3 ans? Est-ce que vous voyez régulièrement des réformes? On nous voit qui mobilise. D'ailleurs, dans les médias, vous, les journalistes, les médias, vous vous plaignez de dire, et vous avez raison, et les Français qui aiment le football, dire, mais ce football français ne bouge pas. Excusez-moi, mais parfois, on a l'impression qu'il est à l'image de la société française. Il est impossible de le réformer. Mais aujourd'hui, la Ligue 1 a décidé, et c'est aujourd'hui un acte fondateur important, de réformer le football français et d'avancer, de changer le football français.
Cette réforme, Président, je vous coupe, passe aussi par un changement de gouvernance. Donc aujourd'hui, clairement, la Ligue 1 veut prendre plus de pouvoir sur la Ligue 2.
Non, mais ce n'est pas plus de pouvoir, c'est un changement de gouvernance où la Ligue 1 décide de ce qui concerne la Ligue 1 et la Ligue 2 décide de ce qui concerne la Ligue 2. Exactement ce qui se passe en Angleterre avec la Première Ligue par rapport à la deuxième division, la Championship. Exactement ce qui se passe en Italie avec la Serie A par rapport à la Série B. Ça ne veut pas dire, et nous sommes prêts à continuer à aider financièrement la Ligue 2, mais nous voulons avoir notre propre indépendance et pouvoir avoir nos propres règles pour pouvoir faire face à la compétitivité, avoir une meilleure compétitivité européenne, faire face aux enjeux européens, ce que les fans de football attendent, qui est d'avoir des clubs français qui retrouvent un meilleur rayonnement, il faut dire les choses, à part le Paris Saint-Germain, dans une moindre mesure Monaco, les clubs français marchent avec des poids de 10 kilos à chaque pied. C'est ça que nous voulons libérer.
Et quand vous entendez le président de Clermont, Claude Michi, qui menace d'utiliser un droit de révocation du conseil d'administration de la Ligue, que voulez-vous lui répondre?
Quand le président de Clermont menace le Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille, l'Olympique Lyonnais, l'AS Saint-Etienne, ce président de Clermont, qui peut-être dans un mois ne sera plus le président de Clermont, mais en définitive, en vertu de quoi veut-il diriger des clubs qui sont les clubs qui tirent le football français vers le haut et qui génèrent les droits télé et le montant des droits télé qu'il y a aujourd'hui? Donc, on a envie de dire, bon, ces menaces n'ont fait que, au contraire, hériter les clubs de Ligue 1, mais on est capable de prendre notre propre responsabilité, et surtout dans des menaces de révocation, en disant 23 clubs souhaitent révoquer le conseil d'administration de la Ligue, qui est entièrement faux, parce que qu'on nous donne les noms et qu'on nous donne les explications, c'est entièrement faux. Il y a aujourd'hui, ces clubs sont tous en Ligue 2, ou pratiquement, ou tous en National. C'est le sujet pour eux, c'est le sujet des montées et des descentes. Nous, le sujet dépasse le sujet des montées et des descentes. C'est un sujet qui va beaucoup plus loin. C'est un sujet de la survie de la Ligue 1 française face à ses concurrents étrangers que vous connaissez et qui sont beaucoup mieux armés que nous. Ce déclin que nous subissons depuis un certain nombre d'années, nous voulons absolument stopper ce déclin et repartir de l'avant. Et pour ça, on a besoin de réformes. Et ces réformes, si on ne peut pas les faire parce que chaque fois, la Ligue 2 va nous tirer vers le bas, avec tout le respect que j'ai sur les clubs de Ligue 2, pour les clubs de Ligue 2, c'est pas faire avancer le football, c'est pas ce qu'attendent tous les fans de football français qui veulent voir des clubs français réussir au plus haut niveau.
Bernard, vous êtes peut-être alors pour la première fois de votre vie entièrement d'accord avec votre plus grand rival, Jean-Michel Aulas, qui veut absolument ses pouvoirs pour la Ligue 1.
Mais Jean-Michel Aulas, mais que ce soit Nasser Al-Khelaifi, que ce soit Michel Seydoux, qui sait parfaitement ce qui se passe dans le reste de l'Europe, même les clubs qui ne sont pas européens, ils ont la même concurrence en termes de niveau joueur, au niveau de leur organisation. Ce n'est pas parce que vous êtes club de Ligue 1 que vous n'êtes pas européen, vous n'avez pas la même concurrence avec les Espagnols, les Italiens, les Anglais ou les Allemands. Et c'est là, les Allemands ont su se réformer, nous sommes absolument incapables de nous réformer. Et si on ne fait rien, eh bien notre football français continuera à péricliter.
Est-ce que vous allez proposer concrètement, rapidement, de séparer la Ligue 1 et la Ligue 2 dans deux systèmes de gouvernance à part?
Je respecte mes collègues présidents de Ligue 1. Donc ce qui va se passer, c'est que nous nous réunirons cet été et on concevra un programme et on travaillera ensemble pour prendre un certain nombre d'options. Jean-Michel Aulas a démissionné du CPF, c'est un acte fort. On a appris que Jean-Pierre Louvel allait quitter la présidence du CPF. Il faudra que je pose des questions, nous aussi, sur qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on reste au syndicat des clubs? Comment se va-t-on s'organiser? Tout ça, c'est des questions qu'on va traiter collectivement. Parce que on a un système qui est un système, je dirais, où tous les clubs qui sont en Ligue 1 aujourd'hui sont concernés par le développement de notre football au plus haut niveau.
Merci beaucoup Bernard Caillazzo d'avoir répondu à nos questions.
Merci
sur RMC.
Oui.
À très bientôt sur notre antenne. Ah, on va poursuivre ce débat dans un instant sur RMC avec Claude Michy, le président de Clermont, qui sera en direct avec nous. Il n'est pas tout à fait d'accord, vous vous en doutez, avec ce qui vient de se dire. C'est le cas aussi de quelques tweetos hein, sur le hashtag RMC Live, comme Anthony qui nous dit qu'il veut que le pognon reste chez les riches et qu'ils fassent leur magouille tout seul. En fait, voilà, c'est une façon de voir les choses. Vous continuez à réagir hein, bien sûr sur ce débat entre la Ligue 1 et la Ligue 2 sur le hashtag RMC Live, également au 32-16 si vous voulez réagir. On ira également à Lausanne dans un instant retrouver François-Xavier de Châteaufort et Marie-Zéven Gépé qui sera à mes côtés en studio pour le premier saut de Renaud Lavillény à la perche au meeting de Lausanne. C'est de la Ligue de Diamant. À tout de suite.
RMC Intégral Tour, Virginie Fulpin.
Il est 20h46, l'intégral tour c'est jusqu'à 21h sur RMC. Ensuite ce sera l'after et avec Florent Gautreau. Et l'invité de l'after ce soir, c'est Gervais Martel, le président du RC Lens. Ça ce sera à partir de 21h. Avant nous allons recevoir Claude Michy, le président du club de foot de Clermont. Mais encore avant, nous allons parler d'un autre Clermontois, Renaud Lavillény. François-Xavier de Châteaufort est en direct du meeting d'athlétisme de Lausanne. Premier essai raté à la perche hein, pour Renaud Lavillény.
Ouais, premier essai raté, je parle pas trop fort parce qu'il y a le départ du 100 mètres féminin dans quelques instants. Mais Renaud Lavillény qui va avoir un concours compliqué ce soir comme tous les autres perchistes car le vent tourbillonne vraiment, véritablement de plus en plus fort ici au stade de la Pontaise à Lausanne. Et Renaud donc qui a échoué à son premier essai à 5 m76. Un peu de la même façon qu'au Stade de France, il y avait la hauteur mais pas la profondeur et donc il retombe sur la barre. Bref, c'est pas bon. Il restera encore deux essais à Renaud Lavillény ainsi qu'à Kevin Ménaldo, l'autre français également en lice dans ce concours de la perche. Messieurs, pour l'instant, il n'y a que l'allemand Raphaël Holzepe qui a franchi 5,76 au premier essai.
Marie-Zéven Gépé, Fix vient de dire que c'était à peu près la même chose que ce qui s'était passé au Stade de France pour Renaud Lavillény. Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour la suite?
On s'inquiétera si ce concours se termine comme ça s'est terminé à Paris. C'est vrai que on grince forcément des dents en voyant ce premier saut qui paraît encore une fois un petit peu mou, un petit peu en dessous, pas forcément en rythme, pas forcément lavilléniesque, on va dire. Il y a encore deux sauts à produire ici pour passer cette barre et puis on espère beaucoup plus haut, donc on pourra faire l'analyse après, mais c'est vrai que deux défaites d'affilée seraient effectivement un signal d'alarme, mais on en est qu'au tout début du concours.
Il a attendu longtemps avant de s'élancer, il a vraiment quasiment attendu la limite pour s'élancer. Très agacé,
il y a du vent, c'est ça, il y a un vent tourbillonnant,
très agacé par le vent, et le vent, là je suis en tribune comme tous les autres, là il souffle de plus en plus fort, donc c'est pas forcément de très très bon augure pour tous les perchistes de manière générale.
Évidemment, on sera en direct pour le prochain essai de Renaud Lavillény en direct du meeting de Lausanne. Pour l'instant, Claude Michy est en ligne avec nous, le président du club de foot de Clermont. Bonsoir Claude Michy.
Bonsoir.
Si je vous présente comme un homme en colère, ça vous convient?
Non, je suis pas un homme en colère. Je suis porteur de messages d'un certain nombre de mes camarades présidents de club face à, je dirais, un petit tour de force qui a été organisé sur la notion de montée, de descente, mais je pense que le problème est plus profond que ça et qu'on va plus vers une maîtrise, vers une ligue fermée à 18 clubs, des répartitions de droits télévision qui vont appauvrir les clubs de Ligue 2 notamment. Je pense qu'on est parti pour quelque chose de dangereux pour le football et où le rêve est des clubs amateurs pour monter et accéder au professionnalisme ou des clubs de Ligue 2 pour monter en Ligue 1 va s'estomper avec ce qui se met en marche.
C'est Mohamed Bouafsi est avec moi en studio, Claude Michy, et je voulais revenir donc d'abord sur ce qui s'est passé ce matin au conseil d'administration de la Ligue, qui pour vous est peut-être symptomatique de quelque chose d'autre qui pourrait se passer après, c'est-à-dire que là, le conseil d'administration a validé le principe de deux montées en Ligue 1 et deux descentes simplement, au lieu de trois jusqu'à présent. Pour vous, c'est le début d'une Ligue fermée donc?
C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est d'abord, il avait été admis que ces deux montées de décembre puissent exister pour 2016 et 2017. Ça avait été voté en Assemblée Générale de l'UCPF par tous les clubs pro, à une faible majorité, mais voté de cette façon-là. Et tout le monde avait accepté cette chose-là. Bon, les clubs de Ligue 1 qui avaient voté cette chose-là sont revenus quelques semaines après pour dire que finalement, ça allait être de 2015-2016, en passant directement par le conseil d'administration de la Ligue, où ils sont majoritaires. Et on se retrouve dans une situation qui est désagréable, parce que vous allez voir que la suite, il y a beaucoup de clubs qui sont très mécontents, et il va y avoir des actions pour que tout le monde retrouve un peu, d'intérêt, pour l'intérêt du football surtout.
Président, est-ce que vous craignez clairement une scission entre les clubs de Ligue 1 et les clubs de Ligue 2?
Ça serait bon pour personne, ni pour la Ligue 1, ni pour la Ligue 2. Quand la Ligue 1 se plaint que les Anglais ont beaucoup plus d'argent, eh ben tant mieux, ce qui permet aux clubs anglais d'acheter des joueurs français et de remettre de l'argent dans les finances de ces clubs qui en ont bien besoin. Vous avez quelqu'un comme Jean-Pierre Louvel, le président du CPF, qui a annoncé qu'il allait démissionner de sa présidence parce que le climat était malsain et mensonger, c'est ses termes. Donc je pense que on était parti ce matin sur une discussion à la demande du président Le Graët et à la demande du président Thiriez sur un consensus et revenir à ce qui avait été décidé 2016-2017. Ça n'a pas été validé. On en est là. À partir de ce moment-là, chacun va défendre ses intérêts.
Et justement, vous avez un moyen de pression. Est-ce que vous allez demander la révocation du conseil d'administration de la Ligue?
Écoutez, Gervais Martel, je crois, est dans l'after tout à l'heure.
Exactement, dans 10 minutes.
Moi, j'ai eu des présidents de tous les grands clubs qui ont été en Ligue 1, comme Auxerre, comme Lens, comme Metz, comme Nancy, comme Guingamp qui est actuellement, où tous ces gens-là sont mécontents de la décision. Alors, faut toujours essayer de respecter les décisions à partir du moment où elles sont prises, normalement, et qu'il n'y a pas eu de changement de cap, alors que les choses avaient été validées. C'est ça qui a donné le courroux un peu à tout le monde. C'est ce revirement entre un vote à la GUCPF, notamment des clubs de Ligue 1, pour 2016-2017. C'est ça qui a fait que ça a été un peu déclencheur. Donc à aujourd'hui, les clubs de Ligue 2 et certains clubs de Ligue 1 s'estiment pas respectés. Donc à partir de ce moment-là, le système, comme il est fait, il n'y avait pas de surprise au conseil d'administration de ce matin. Il y a une majorité club Ligue 1, il y a 8 clubs de Ligue 1, il y a 2 clubs de Ligue 2. Saïd Chaban, qui est le représentant de la Ligue 2, qui monte en Ligue 1, a voté Ligue 1, mais je pense que c'est plus un vote personnel qu'un vote pour défendre les clubs de Ligue 2.
Président, deux questions directes. Vous avez 23 voix de président. Vous disposerez de 23 voix de président qui vous permettent de faire cette révocation. Est-ce que vous comptez vraiment la faire, comme vous avez eu des discussions cet après-midi avec d'autres présidents de Ligue 2? Est-ce que vous allez le faire, oui ou non?
Alors, écoutez, c'est d'abord la convocation d'une assemblée générale extraordinaire. Il y a une réunion qui est prévue lundi ou mardi pour valider et définir l'action qui va être mise en place par ces 23 clubs.
Une autre question, des présidents de Ligue 2 s'expriment depuis tout à l'heure sur les médias, les différents médias, et évoquent la possibilité d'un boycott, d'une reprise de la Ligue 2. Est-ce que c'est possible ou non?
Écoutez, moi je pense que dans ce genre de situation, il faut se ranger à la majorité de ce qui va être décidé par ces clubs. Il va y avoir des discussions sur les choses qui peuvent être mises en place. Si vous voulez, le problème c'est que il était prévu 2016-2017 avec deux descentes de Ligue 1 en Ligue 2 et de Ligue 2 en National et deux montées de National. C'est ce qui avait été envisagé. Et ce qu'a défendu le président Le Graët ce matin et le président Thiriez. Ils n'ont pas été suivis, notamment par les clubs de Ligue 1, avec des mots assez durs et assez fermes pour dire où ils voulaient en venir. Et n'oublions pas qu'on est presque dans des campagnes électorales et on est un peu au milieu de tout ça avec des changements éventuels de président ou des nouvelles candidatures. Donc le dossier est très compliqué.
Oui, ça risque d'être le feuilleton de l'été. Merci beaucoup Claude Michi d'avoir été notre invité dans l'Intégral Tour. À très bientôt sur RMC.
Merci.
Supporter de Ligue 1 et de Ligue 2, on vous attend au 32-16 pour réagir dans l'after et pour nous dire ce que vous pensez de tout ça, s'il faut une scission, s'il ne faut pas de scission. Mais en attendant, on va aller à Lausanne retrouver François-Xavier Châteaufort parce que Renaud Lavillenie va faire son deuxième essai à 5m76.
Oui, et ça va être compliqué comme pour tous les autres concurrents, tous les autres perchistes encore rescapés dans ce concours car le vent tourbillonne de plus en plus ici à Lausanne. Ils ne sont que deux pour l'instant à avoir franchi 5m76. L'allemand Raphaël Holzepe au premier essai et Konstantinos Filippidis au deuxième essai, Renaud Lavillenie qui va s'élancer dans quelques instants pour son deuxième essai à 5m76. C'est parti, la course d'élan de Renaud Lavillenie sans un coup, c'est parti avec les applaudissements du public. Oui, ça y est, ah ça y est, et bien voilà, ça fait du bien. Renaud Lavillenie qui peut souffler, qui nous a offert un saut comme on lui connaît, bien au-dessus de la barre. Il y avait la profondeur cette fois-ci dans le bon tempo. Ouf, ça y est, Renaud respire, le concours est lancé pour lui et ils sont donc à avoir franchi pour l'instant cette barre. Ils sont encore 5-6 à devoir tenter un troisième essai à 5,76.
Donc 3 seulement. Donc Maryse, ça y est, Renaud Lavillenie ne va pas faire deux échecs de suite. Hein, comme on
non, non, bien sûr, mais ça n'est malgré tout que sa première barre de concours et les deux garçons qui ont déjà franchi 5,76 sont ceux qui étaient déjà à la bagarre à Paris, puisqu'il s'agit du grec Filippidis qui a battu le record de Grèce à Paris pour l'emporter justement, et de Raphaël Holzepe qui est l'un des concurrents principaux de Renault, qui était champion du monde d'ailleurs devant Renault il y a quelques années. Donc là on a un petit peu le profil de ce qu'on aura dans quelques semaines à Pékin.
Et puis au-delà du concours de la perche, on a aussi un moment qui va être très important tout à l'heure, je crois qu'il sera à peu près 21h17, c'est le 100m, un 100m très, très alléchant, hein, François-Xavier Châteaufort.
Ah oui, avec Justin Gatlin l'américain, son compatriote Tyson Gay et Asafa Powell le jamaïcain. C'est très très rare de les avoir tous les trois sur un meeting, et d'autant plus à un peu plus d'un mois des championnats du monde. Lausanne s'est offert le luxe d'avoir les trois sprinteurs. Il manque que Usain Bolt finalement dans cette course pour vraiment faire une course.
Et Jimmy Vico
bien évidemment, mais Jimmy il s'est reposé un petit peu, il se remet ses efforts. Puis il y a les championnats de France pour Jimmy qui commencent dès samedi et qui se poursuivront dimanche. Justin Gatlin qui n'a jamais couru aussi vite de sa vie, on le rappelle, hein, Gatlin qui est revenu de suspension en 2010 après 4 ans de suspension, qui a 33 ans et qui a quand même claqué deux chronos, les deux meilleurs de la saison d'ailleurs, 9,74 et 9,75. Bien sûr, ces chronos font grincer quelques dents, font réagir dans le milieu de l'athlétisme avec ce retour de suspension, et puis voilà, avec ce Justin Gatlin qui n'a jamais couru aussi vite jusqu'à présent. Tyson Gay, l'américain également, lui aussi qui revient de suspension, mais lui il n'avait eu qu'une seule année de suspension en 2013. Et Asafa Powell également, autre repenti, qui lui aussi avait été suspendu 18 mois en 2013 pour prise d'un stimulant. Bref, les trois qui se retrouvent, les trois trentenaires, comme on dit.
Alors ces trois-là, Maryse, quel est le favori ce soir?
Justin Gatlin, sans aucun doute, puisqu'il gagne toutes les courses auxquelles il participe à l'heure actuelle. Mais c'est vrai que c'est le premier grand rendez-vous entre Asafa Powell, Justin Gatlin et Tyson Gay. Donc il va y avoir vraiment un focus sur ces gars-là. Et puis on peut rajouter que les six meilleurs mondiaux, à l'exception notable de Jimmy Vico, notre nouveau recordman, co-recordman d'Europe, sont présents dans cette course. Donc il ne faut surtout pas oublier Michael Rogers, qui l'a emporté à Paris devant Jimmy Vico justement. Et puis on aura un œil aussi attentif sur les petits jeunes qui arrivent derrière, dont Isaiah Young, qu'on a vu tout à l'heure d'ailleurs sur le 200 mètres, qui s'entraîne avec un certain Justin Gatlin et DeAndre Batson, l'autre américain.
Et on va vivre ça en direct sur RMC. Ce sera 21h17 et ce sera dans l'after avec Florent Dautreau.
Salut Virginie, salut, Florent. Salut à
à tous. On sera avec Maryse, avec Fix pour ce rendez-vous. 21h17 pour le 100 mètres du meeting de Lausanne. Et on va évidemment revenir surtout dans l'after sur cette décision de la Ligue de monter, de descendre seulement entre Ligue 1 et Ligue 2. Vous entendrez sur ce sujet Bernard Caiazzo, membre du CA de la Ligue, qui est pour la décision, mais aussi Gervais Martel, qui est contre le président de Lens, bien sûr. La colère des présidents de Ligue 2, Thierry S dans la tourmente. On vous attend au 32-16, plus l'OM qui va recruter, le Mercato Show comme tous les soirs, le je m'en fous pas, et le quiz bien sûr. L'after arrive dans quelques instants, à tout de suite.